Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous avons la joie d'avoir dans ce studio de la rue de la Salie, de Radio Occitanie, Philippe Berthaud. Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu nous voir. Curieusement, c'est vrai que les Toulousains sont un peu les plus rares, malgré tout. Et donc c'est avec grand plaisir que nous recevons Philippe Berthaud. Philippe Berthaud qui est bien connu bien sûr du public toulousain, puisque ça fait maintenant quelques décades, nous allons dire, que Philippe Berthaud se produit dans toutes les animations qui concernent l'écriture, la chanson et la comédie, on va dire.
Oh. Hein?
Puisque tu es à la fois écrivain, poète, chanteur, interprète.
Ouais, ça fait pas mal de casquettes, ça, et animateur d'atelier d'écriture
voilà,
aussi.
Voilà, et animateur.
Mais pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on fait la formule homme de lettres, qui est très, très datée, très, très ringarde. Moi, me conviendrait assez bien. Je sais plus qui d'autre, d'ailleurs, j'avais lu que ça pouvait lui convenir, parce qu'effectivement, on fait un travail avec... à partir de la lettre, en la déployant aussi bien dans les poèmes que dans le chant, que dans le et puis dans les ateliers, quoi. C'est et dans la mesure en plus où ben la lettre, c'est enfin tu as pu le voir dans le cahier de des écritures, la lettre c'est vraiment l'élément fondamental de la combinatoire de notre langue qui fait que dès qu'une lettre bouge, pouf, il y a tout un paquet de sens qui bouge et qui et voilà, cette conscience de cela, c'est quand même, pour moi, la base de l'écriture poétique.
Alors, si tu veux bien, Philippe, avant de parler du recueil pour lequel nous allons ce soir débattre et présenter aux auditeurs de Radio Occitanie et au-delà, à tous les internautes du site les-poètes.fr, nous allons écouter... un texte de Gilbert Baquet que tu as mis en musique il y a déjà quelques années.
Oui.
Alors Gilbert Baquet, tu peux nous en dire deux mots, je crois.
Gilbert Baquet était un ami, était un poète, était un musicien, et il nous a quittés il y a un an. Toujours bien sûr trop tôt, et de manière assez rapide et brutale. Et le dimanche 10 avril, la ville de Tournefeuille, donc dont il était un des habitants poètes quand même les plus connus, donc rend un hommage. Donc je ne sais pas exactement, j'ai pas vu où c'était précisément. Je te donnerai les informations plus tard. Mais ça sera vraiment un moment important où tous les amis donc de Gilbert se réuniront pour lui rendre hommage par lecture de ses poèmes, j'interpréterai bien sûr le poème que j'ai mis en musique. Et puis pour se souvenir de cet homme à la voix rocailleuse qui était vraiment quelqu'un de très bien, c'était un homme, un honnête homme, voilà.
Tout à fait. Et qui jouait de la
du jazz, du trombone.
Trombone,
bien sûr, en ouais, Calamity Jazz.
Calamity Jazz, oui.
Oui, oui.
Ouais. Je me souviens de l'avoir vu devant le place le Lafayette là devant le là où est la Fnac là.
Oui, oui, bon, ben, il jouait partout, souvent, oui. Il jouait partout, c'était
oui, oui. Et il y avait un attroupement toujours.
Ah oui,
Gilbert. Alors, on va écouter comment s'appelle ce texte Philippe.
Je crois que c'est Montagne.
Montagne. Gilbert Baquet. On l'écoute.
Dans la montagne me la prend. De nous deux, je suis seul. Connaissance récente des sorbiers, dont j'ignorais la race et l'ombre. Je n'entends plus ta voix que de très loin, parmi le choc des vers et des sentences. Me retourner serait choisir. Abandonner l'image haute des glaciers, revenir à mon air, tartes, les platanes, le vin noir sur la nappe. Et ne plus retrouver la trace des bergers, ni la chronique sempiternelle de l'âne dans le bleu de l'été. Partir sans joie, sans descendance, étourdi de soleil et de sentiers fourbus. Le morne itinéraire que le temps, quand les paroles s'éteignent et que le monde diminue.
Voilà, c'était Gilbert Baquet, donc mis en musique par Philippe Berthaud. Alors, Philippe, ça fait donc longtemps que tu publies. Il y a à peu près une quinzaine de recueils à ce jour.
Oui, qui sont assez différents d'ailleurs, parce que oui. Ça a commencé par... En fait, si, le premier recueil, c'était chez aux éditions Tribu, là, chez Serge Paye.
Ah oui, le Chant Flipper.
Le Chant Flipper, où d'ailleurs il y a un recueil de oui. Gilbert Baquet qui s'appelle Des Orients.
Oui, tout à fait. Oui.
Et ça, il faudra rendre hommage à Serge de quand même de la générosité qu'il a eue très souvent de monter comme ça des éditions et puis d'inviter les amis et de prendre des risques, parce qu'on sait très bien que quand on monte une maison d'édition pour la poésie, c'est pas avec ça qu'on va gagner sa vie, quoi.
C'est Édition Tribu.
C'était l'édition de Tribune dans les années 80, quoi.
Tout à fait au début des années 80. Ouais. Oui.
Il y avait Bruno Ries, il y avait Gaston Puel, il y avait plein de Bernard Mancier, il y avait quand même mal de poètes.
Certes. Alors depuis, ça c'est, on parle des années 80, hein, c'est-à-dire c'est quand même pas mal de temps.
Oui.
Bon. Depuis, tu n'as cessé d'écrire, tout en ayant cette activité que tu avais déjà, je pense, dans les années 80, je parle de là de mémoire, des ateliers d'écriture. C'est les années 90 plutôt.
Plutôt 90. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début où je chantais, on demandait toujours de faire des animations en milieu scolaire, etc. Donc on faisait un travail de création de chansons, quoi. Puis au bout d'un moment, c'était à force de devenir un petit peu l'usine, quoi. Je veux dire, quand on faisait 20, 30, 40, 100 chansons dans l'année, quoi, c'était ça voulait plus dire grand chose. Mais en fait, la rupture s'est faite, c'était pas avec les enfants, ça s'est fait lorsque Jacques Brianti m'avait proposé d'écrire sur la mémoire ouvrière à bannière de Bigorre.
Ah oui.
Et là, je me suis aperçu, enfin, je pense que j'en avais parlé la dernière fois, je me suis aperçu qu'il y avait une écriture orale chez les gens. Et les gens qui n'étaient pas des gens cultivés, et qui étaient faites à base de souffle, de rythme, de trous, de choses qui pouvaient paraître comme des erreurs, des choses pas agréables. Moi, je l'ai entendu comme si c'était un style. Et après, je l'ai retrouvé, quand il y a eu cet autre travail qu'on a fait sur Empalo, là, qui s'appelle L'Empalodyssée, avec Jean-Claude Bastos et La Compacte. Et là aussi, donc par exemple, j'avais travaillé pendant un an, où j'avais recueilli à peu près une centaine d'interviews, et à partir de là, j'avais monté des dialogues, mais à partir de ce qui avait été enregistré, et notamment il y avait une gardienne, ce qu'elle m'a dit, ce que j'ai enregistré, je l'ai gardé sans rien toucher, parce que répétitif, la reprise, etc., ça avait... Je me suis aperçu que, par exemple, les gens, tant qu'ils avaient de l'air dans les poumons, ils parlaient. Donc, en fait, c'était pas tellement ce qu'ils avaient à dire, mais c'est que comme il leur restait de l'air dans les poumons, ils pouvaient rajouter quelque chose. Et ça, c'est marrant quand on l'écoute comme ça, quoi.
Alors, ce travail, c'est un peu un travail de sociologue, là, ce que tu avais fait.
Non, j'ai vraiment pris comme un travail de recueil de paroles. De paroles, sans sociologue, peut-être il reviendrait dessus. Moi, je revenais pas. Moi, je le gardais comme un matériau brut, un matériau littéraire, un matériau poétique. je ne cherchais pas à analyser. Donc c'est pour ça, pour le livre sur manière de Bigorre, c'était pareil, quoi. C'était pas, j'étais pas, moi j'ai une formation en lettres modernes et en linguistique, et pas du tout en socio, ni en psycho, ni quoi que ce soit. Donc j'allais pas aller dans ces territoires-là que je connais pas.
Recueil de la parole, mais c'est aussi donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole. Est-ce qu'il y avait ça aussi?
Oui, mais quand même, les gens, ils ont la parole d'une certaine manière. Je veux dire, mais c'est des fois c'est les personnes elles-mêmes qui s'empêchent. On le voit quand on dit aux gens, ben maintenant c'est à vous de lire, par exemple, vos poèmes. Ah non, mais moi je sais pas lire. Ben si, tout le monde sait lire. Ben, quand on est alphabétisé, tout le monde sait lire. Mais cette espèce de complexe, d'infériorité que l'on se donne à soi-même, d'être pas capable de, alors qu'en fait, même les accidents de voix, même les gens qui ont des voix qui sont un peu, des fois un peu difficiles, portent une émotion que les voix bien placées des artistes, des fois, ne portent absolument pas, quoi.
Parce qu'il y a l'authenticité, c'est ça? Aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, c'est le bon, la voix, c'est la carte d'identité profonde du corps, quoi. Donc tout notre être est dans notre voix, hein. Donc même si la voix elle est blessée, elle est fêlée, ça veut dire quelque chose aussi.
Alors, nous étions à la cave poésie ce lundi, Philippe, et tu présentais un livre édité donc par François Bon dans des éditions Publinet. Hein, c'est plus non. Lui, c'est ça?
C'est plus lui. Ah, bon, oui. C'est j'ai commencé à publier. Alors, Publi.net, ce sont des éditions numériques.
Oui.
Bien. Ouais. Même si maintenant, de temps, il y a parfois des versions papier. Et donc, à l'origine, bien sûr, c'était François Bon, et j'avais proposé deux textes qui ont été pris. L'un qui s'appelait Enregistré sous S-O-U-S. Hein. Bon, l'ordinateur quand il est enregistré sous. Et puis donc c'est plutôt des fragments, plutôt. Et puis un recueil de poèmes qui s'appelle le Saut rouge, saut bleu. Et alors ça venait du fait que j'avais vu très souvent dans le métro du Capitole, notamment où est Esquirol, un saut bleu et un saut rouge côte à côte qui recueillaient de l'eau qui goûtait, c'est-à-dire dans cet espace de grande modernité technologique qu'est le métro, il y avait cet archaïsme de ces deux seaux. Mais ce qui était très curieux, c'est que je ne les ai jamais vus renversés, les gens tournaient autour, et c'était un saut rouge, un saut bleu. Et là, tout à l'heure, encore, je crois que c'était à Jeanne d'Arc, là, il n'y avait qu'un saut rouge. Mais comme ça, c'est d'une étrangeté totale, quoi. Et ça m'a déclenché toute une série de poèmes qui.
Alors, que tu as publié à ces éditions numériques.
Hein, c'est ça, oui.
Dont le titre est.
Le dernier, oui, le cahier de désécriture.
Voilà. Donc, le cahier de désécriture. Que l'on peut se procurer, donc si tu peux donner le...
En téléchargeant le fichier sur publi.net, hein, suffit, donc, je crois qu'il coûte 3,99€, donc c'est ce qui m'a intéressé dans l'édition numérique pour l'édition de poèmes, parce que on l'a vu aussi lundi, hein, quand on a fait cette lecture, là, le fait que ce soit, qu'on puisse le projeter, qu'on puisse le lire, c'est une, pour moi, ça m'apparaissait une richesse pour la diffusion du poème, autant que les plaquettes que l'on peut éditer chez les petits éditeurs qui, la plupart du temps, ne circulent pas, ne sont pas distribuées, elles sont avec nous quand on fait les récitals, mais on les a pas. Et donc là, il y avait l'indice qui était bien, c'est le fait qu'on pouvait partager la lecture justement avec toute la salle, quoi.
Oui. Alors on va en parler. Il s'agit de. Alors ça a eu lieu à la CAF Poésie, donc René Gouzen à Toulouse, et le texte donc de ce recueil, le cahier de désécriture, était projeté page par page sur un écran, et tous les spectateurs.
Oui, chaque spectateur.
Chaque spectateur à tour de rôle lisait une page.
Voilà.
De ce recueil. Voilà. Et il y avait à peu près une quarantaine peut-être de personnes dans le
salle. Ah oui, j'étais...
Donc ça veut dire que ça, quand même des voix nombreuses. Hein.
Ah ben oui, puis bon, il faut dire que c'était dans le cadre, j'étais invité par Serge Pey dans le cadre de son chantier d'art contemporain, là, de poésie contemporaine, qui est un rendez-vous tous les lundis, chaque lundi, qui est un rendez-vous très, très, très riche, toujours très... Là aussi, il faut lui rendre hommage une fois de plus de tout ce qu'il fait aussi pour la poésie avec générosité. Ils ne sont pas nombreux les poètes qui invitent les autres poètes. Hein. Enfin, on peut les compter des fois sur le doigt de la main. Hein. Tu en fais partie. Mais...
Alors, donc, on a été surpris de voir que chaque lecteur était du fait de, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein, puisque je faisais partie de ces lecteurs, donc je peux en parler. Je suis partie intégrante de ce qui s'est passé ce soir-là. C'est que chacun d'entre nous, le temps de la lecture, s'est approprié le texte. Et ça aussi, ce qui est un phénomène qui est tout à fait effectivement différent du personnage qui se met sur une scène et qui va lire son texte, qui va donner ce texte. Mais là, il y avait de la part du public quand même une appropriation, un peu forcée peut-être, mais qui n'en était pas moins réelle.
Oui, hein. Enfin, ils étaient volontaires.
Oui, hein. Oui, oui.
Bon, s'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas. Mais c'est,
et donc, il y avait une attention qui était... Mmh. Alors ça, j'ai trouvé ça très bien. Parce que nécessairement, comme de page en page, le texte tournait, et donc chacun attendait et devait être attentif, parce qu'au moment où il devait lire, il ne fallait pas qu'il y ait d'hésitation, de silence. Donc il y avait une attention totale pendant les 35 minutes à peu près qu'a duré cette lecture. Il y avait véritablement une attention, et encore avec le texte. Voilà. Je trouvais que c'était un moment fort.
Ouais.
Vraiment, c'était un moment fort.
Mais moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est d'être toujours dans ce... Vraiment que le poème soit le plus partagé possible. Bon, je le fais là avec des enfants encore tout aujourd'hui. Donc je leur lis des poèmes que j'ai écrits. Puis après, c'est eux qui écrivent leur poème. Enfin, ceux qui ont décidé de nommer poème. Parce que c'est quoi un poème aujourd'hui? Quels sont les marqueurs du poème aujourd'hui? C'est, je veux dire, il y a tellement de poètes différents. Il y a tellement de formes d'écriture où les gens décident que c'est un poème. Comme aussi Reverdy avait décidé que Le Voleur de Talents, c'était un roman. Alors que c'est écrit sous forme poétique. Enfin, donc je veux dire, il n'y a plus de marqueurs. Sinon cette appropriation de la langue. Hein, dans une sorte de relation personnelle, soudain, alors avec des fois des métaphores créées, des fois pas du tout, des fois rien que du souffle, des fois des répétitions, qui donne quelque chose de qui va vers le poème, je dirais. C'est faire le geste d'écrire le poème plus que de dire voilà. Mais il arrive que il y a encore aujourd'hui, il y a des poèmes qui arrivent tout fait, et c'est quand même assez fascinant. Et c'est un partage d'énergie surtout. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ressort, on est tous rechargés, quoi. Parce que bah, les poèmes, ils étaient quand même certains ils ont quand même une certaine tonalité un peu, des fois un peu noire, un peu grise, un peu. Le désécrire, c'est quand même aussi quelque chose de des fois d'un peu douloureux. Mais le douloureux partagé donne de l'énergie aussi. Hein. C'est une, et moi j'avoue que ça me plaît beaucoup. En plus il y avait une chose qui était intéressante, c'est qu'en fait le fichier, quand on le lit sur l'ordinateur, il se présente sur deux pages. C'est deux pages par deux pages. Or les ennuis, enfin les problèmes techniques ont fait que je ne pouvais passer qu'une page à la fois. Ce qui fait que des fois on s'apercevait, il manquait un vers à la fin, et paf, il arrivait à la fin, et donc il fallait que la personne réajuste, parce qu'en fait ça c'était lié. Mais le fait que ce soit sur une seule page obligeait tout le monde à être sur la page. Si on avait eu deux pages, les gens, on va très vite, hein, on aurait été déjà dans la deuxième page et on n'aurait pas écouté la personne qui lisait la première page. Donc en fait une erreur, enfin un problème technique, finalement a sauvé la lecture, qui, si on avait eu effectivement sur les deux pages, il aurait manqué quelque chose. Il aurait manqué.
Là, il y avait une communion totale de l'ensemble des lecteurs sur le texte.
Voilà, c'est aussi un temps.
Le texte était tronqué. le reprenait avec une autre voix.
Et puis les trous qu'il y avait, les gens qui rajoutaient des mots,
des lapsus.
Et les rires. Et les rires que ça suscitait n'étaient pas des rires moqueurs.
Ah non,
c'était des rires chaleureux.
Oui.
C'est ça aussi qui est assez étonnant, quoi. C'était. Oui. Je pense à, il y avait une jeune fille, une jeune étudiante de Serge là qui est brésilienne, et à chaque fois ce qui lui arrivait, c'était la page la plus dense avec les mots les plus éventrés que j'avais pu amener, alors que juste avant Serge, lui, il avait un seul vers, enfin une seule ligne à lire, quoi. Et elle avait effectivement des difficultés, mais tout le monde était là derrière elle, quoi. C'est ça qui était c'est un temps de partage qui est bien, mais c'est vrai que d'une certaine manière, quand on lit tout seul, même si j'en fais des lectures tout seul, quelque part on confisque aussi la lecture, quoi. Quelque part on confisque.
Alors, si tu veux bien, on va écouter quelques extraits de le cahier de Désécriture, et après on parlera un petit peu de cette désécriture, hein, de cette démarche de désécriture. Et on va écouter pour avoir l'exemple quand même.
2 juillet, j'ai explosé, j'ai bondi, j'ai assailli ma propre langue qui se décompose dans le corps. Un indice, la permutation des lettres s'est déréglée, la vrombinatoire s'est défaite, tout devient nocible. Un semi de vomi pour ultime chanson, chaque jour que Dieu ne fait plus, chaque jour que Dieu ne fait pas. À ce moment, une fleur vient d'exploser. 3 juillet. Point de coloriage où le mot se pose, il n'y avait que du noir immense, comme du civère. Vague début de chanson. Chaque jour que Dieu ne fait plus, je tends ma main dans tes entrailles, parfois tu me rends de la ferraille, mais tu ne me regardes plus. L'illusion d'être nous envahit. Depuis les mervescences d'enfance, une seule lettre telle est échangée, et Berthaud devenu Verto, Werther, tout aurait été vengé. Je fais vibrer cette clôture que le langage crée, jusqu'à le faire éclater comme un cristal détruit par un son suraigu. Mon échec sera mon espoir. La trahison écrase ceux qui l'ont laissé ventrer.
Voilà, c'était des extraits donc de le cahier des écritures. Je crois que c'est important aussi, pour en revenir à cette soirée, quand on écoute le texte, comme tu viens de le donner, on n'a pas la place de des mots dans la page. Or, la place des mots dans la page est aussi un renseignement énorme sur le sens du, et c'est même cette disposition qui va donner aussi le ton du poème. Dans l'inconsciemment, la disposition des mots va avoir son rôle sur la diction, sur l'ensemble du ton employé, etc. C'est la façon dont on va le lire, et donc le sentir, ce texte. Et c'est vrai que ce lundi, on bénéficiait de ça aussi. On avait ce que l'on n'a pas dans une lecture, par exemple.
Tout à fait.
Ce que n'ont pas les auditeurs qui nous écoutent là, moment.
Oui, oui.
Alors, la désécriture. J'ai relu, là, cet après-midi, un de tes textes, lui, en 1994, s'appelle déjà Le paysage déchiré.
Oui.
Parce que, effectivement, cette notion de lieu, de paysage, m'interpelle beaucoup, parce qu'il me semble que ça correspond bien à des préoccupations de la poésie contemporaine. Alors, en ce qui te concerne, le paysage dont tu parles, c'est comme chez la quasi-totalité quand même des poètes qui écrivent aussi sur le paysage. Le paysage le plus important, c'est le paysage intérieur.
Oui, oui. Mais justement, ce qu'il y a, c'est que le paysage extérieur et le paysage intérieur, ils sont... C'est, voilà, le paysage renversé, ils sont en constante... une circulation constante entre les deux.
Il y a une osmose, même à mon avis.
Pas forcément une osmose. Une circulation, parce qu'il peut y avoir des cassures.
Oui. Des ruptures,
c'est ça la désécriture, oui, c'est aussi...
Voilà. On va revenir à ça. Donc voilà, donc là, tu parles là, dans le paysage déchiré, j'étais étonné de voir que ce texte était si ancien en définitive. Parce que j'étais retrouvé tout entier dans ce que j'avais entendu lundi, hein, mais sous une autre forme. Et justement, le fait que cette circulation dont tu parles avait un peu changé. Et là, il m'a semblé que dans ce travail que tu as fait de désécriture, il y avait une forme, oui, de rupture quelque part, et où tu essayais de tordre le langage, de désarticuler un petit peu la langue, hein, peut-être pour lui donner plus que tu n'avais obtenu jusqu'à maintenant. C'est un peu ce qui m'a semblé.
Oui, c'est pas faux.
Aller jusqu'au vraiment à l'extrême limite du sens, donc désarticuler la langue pour arriver véritablement.
Oui, mais avec toujours le souci, donc par rapport au lettrisme, hein, avec toujours le souci quand même que ce soit lisible, c'est-à-dire que le sens. Ouais. C'est pas toujours évident, ouais. Parce que le problème avec cette écriture comme ça désarticulée, c'est que elle peut être prise comme un jeu de mots, il y aura
fatalement. D'ailleurs, il y a dans ton texte, il y a aussi l'humour.
Oui, il y a
effectivement, on sent que tu c'est difficile de pas jouer avec les mots quand on fait ça aussi quand même.
Hein? Oui,
mais
oui.
Attention, ce n'est pas du tout ludique pour être ludique.
Oui, oui, hein? Non, mais c'est pas le c'est-à-dire que le fait que la lettre, que soudain, émervescence au lieu de effervescence, c'est soudain, il y a plein de choses qui se passent, quoi, parce que on n'est plus dans l'effervescence, dans le fer, on est dans la mer aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai appris avec les ateliers aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire cette espèce de creusement avec la lettre qui fait que j'ai toujours pensé qu'on avait des relations, mais ça je l'ai pensé enfant, hein, sans en avoir une conscience, qu'on avait une relation particulière avec les lettres. Et je me suis amusé à penser que, par exemple, on entretient tous peut-être une relation particulière avec des lettres, mais qu'on ne le sait pas. Moi, je sais que la lettre T, j'ai deux T dans mon nom. Je ne sais pas si j'entendais déjà parler de ça, mais j'ai deux T dans mon nom. Et il se trouve donc que j'habite à Toulouse. À côté, quand je suis arrivé à Toulouse, j'habitais à côté de la rue Saint-Antoine du T. Et que j'ai habité dans des rues, rue Gambetta, et maintenant rue des Teinturiers, qui ont deux T. À me demander si, quand je déménage, je vais pas chercher soit une rue qui est deux T, ou bien fuir les rues qui est deux T, tu vois, pour casser un peu la malédiction du T, quoi. Et voilà, et ce T, voilà, c'est toutes ces lettres qui sont il y a évidemment toute la tradition de la Kabbale aussi, hein, mais sans rentrer dans cet espace là essayer de trouver son propre espace de relation avec la lettre, quoi. Et c'est vrai que dès qu'une lettre bouge et qu'on en met une autre à la place, il y a tout un territoire nouveau de sens qui arrive, tout un paysage nouveau qui arrive et qui appelle à être creusé. C'est là la différence qui se fait avec le jeu, parce que des fois ça peut ne rester qu'au niveau du jeu, mais des fois c'est souvent l'idée, c'était dans le désécrire, c'est d'aller, comme tu disais bien là, sur de repousser une limite, parce que finalement la phrase, quand elle est pas devant soi, elle est clôturée, elle est close d'une certaine façon. Donc comment de nouveau la refracturer si ça ne nous convient pas comme sens, parce que je ne sais pas par rapport à ton écriture comment tu réagis, mais des fois moi mon écriture elle me déplaît. Elle me déplaît, même si je dirais objectivement Elle peut être, pour d'autres qui la lisent, avoir un autre sens. Mais pour moi, j'aurais envie de la retirer, quoi. Mais on peut pas retirer. On peut pas retirer quand c'est écrit. Donc, c'était essayer de voir un peu comment, si je retire des éléments pour les remplacer par d'autres, qu'est-ce qui se passait et est-ce que ça me permettait d'aller plus loin dans ce que j'avais envie de dire sur le moment.
Oui. Et peut-être trouver un sens plus aigu ou même différent.
Oui. Hein? Oui.
Jabès faisait ça, Edmond Jabès.
Oui, 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 voilà, Jabès, oui, bien sûr. Jabès, bien sûr.
J'ai relu là cet après-midi un petit peu Edmond Jabès et j'ai trouvé vraiment que c'était une démarche qui était assez propre, proche de la.
Ah oui, non, mais ça, bon, hein? En plus, bah, Jabès, oui. C'est quelqu'un que j'utilise aussi pour. Avec Juaros pour dans les ateliers d'écriture justement pour cette relation à la lettre quoi c'est et oui parce que c'est à la lettre ou au mot enfin puisque c'est ça c'est cette idée toujours de c'est très simple en fait l'écriture c'est une combinatoire qui se complexifie on part de la relation entre les lettres et puis les mots et puis avec les phrases et puis les ensembles de phrases et puis en fait c'est, et ça recommence hein c'est donc en fait c'est bien d'avoir à l'œil ce mécanisme de la combinatoire de la même manière qu'à l'intérieur des mots par exemple qu'on prend là en atelier par exemple on prend le mot soleil on dit au lieu d'écrire à partir du soleil de tout le champ, tu vois, lexical, du signifié, de tout ça. Non, on va chercher à l'intérieur du mot soleil, en bougeant les lettres et les sons, un lexique qui serait propre. C'est comme si chaque mot avait porté en lui aussi son propre lexique. Et il y a des choses étonnantes hein, qui sortent, parce que le mot soleil, dans le mot soleil, il y a par exemple une cinquantaine de mots. Mm-hmm. Hey. Et à partir de là, ben, écoutez, je te propose d'écrire... un poème sur le soleil, une ode au soleil, en utilisant que les mots qui ont été trouvés. Donc évidemment, tout ce qui est chaleur, etc., c'est banni, hein, c'est puni, c'est même y a même une amende quasiment dedans.
Alors, si tu veux bien, on va te demander de lire un autre extrait, et ensuite on reprendra ce débat.
Alors, je vais aller un peu plus loin. Voilà, 7 juillet, ces mots, les prendre tous, les pendre, les réduire en cendres de lettres, et les jeter à la hulle béante des défaites. Fatigue, fratigue, fracture dans la fleur, l'abeille. Dans le parcours du jour, le par-jour, le quotidien est ficelé, l'effort de respirer, l'essor vain de l'air dans les poumons, balise au cœur. Il faut du temps et le temps accéléré ne sert plus à rien. Servile vie attachée à durer contre et malgré. Détruire chaque mot, le raviner, lui enlever un pan d'argile, à finir avec lui lentement comme il en a fini avec moi. Effondrement à l'intérieur, cavité creusée par les eaux calcaires, comme dans le paysage le trou de Bozoul, ce qu'un certain langage fait de nous.
Alors, on pourrait croire que ce qu'on vient d'entendre peut être difficile. C'est-à-dire d'un abord difficile, de trouver un sens, etc., que ça demande un certain effort. Moi, ce que j'ai vu lundi, c'est qu'au contraire, les gens rentrent de plein pied dans le texte, il m'a semblé. Et c'est peut-être là, il faut arriver à démystifier aussi cette difficulté que représenterait l'appréhension de la poésie contemporaine.
Voilà. Ah mais ça, je suis.
Alors c'est vrai que ça demande un effort, c'est-à-dire ce n'est pas de la prose comme à vendre trois pièces, etc., etc. Bon, c'est plus qu'informatif la poésie, mais il ne faut pas l'aborder avec une appréhension en se disant qu'est-ce que je ne comprends rien, quoi.
Oui. Ouais. Bon, mais alors la compréhension en matière poétique, en matière poème, bon.
Il y a le plaisir, je crois.
Oui, il y a des fois des par exemple, c'est très étrange dans les dispositifs d'écriture que je propose. Bon, il y en a des fois où bon, ça amène soudain une surprise avec ces mots, par exemple. Les mots que je demande de chercher dans Soleil, je demande aussi de chercher dans le nom et le prénom, de se faire son propre lexique, ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, alors c'est un côté un jeu, mais pas qu'un jeu. C'est pas ce qui prouve qu'on est aussi des êtres de lettres, pas des chiffres, du merci. Et il se trouve que des fois, il y a des images qui arrivent. Alors les enfants ou même les adultes, et ça leur dit strictement rien. Je veux dire, il y a du rejet. Et au fur et à mesure, parce que c'est un travail par étapes que je propose avec des calques et tout, s'aperçoit que ce qu'ils nous voulaient est gardé. Alors que je leur dis à un moment, maintenant vous reprenez en main votre poème et vous enlevez ce qui vous déplaît, etc. Eh bien ça reste. Parce que ça ne dit rien de précis, mais quelque part ça leur dit quelque chose, mais on ne sait pas où. C'est ça aussi le poème. Il y a quand même cette part aussi d'obscur, qui n'est pas qui n'est pas volontaire, mais qui est importante, parce que dans le poème, tout ne peut pas être dit avec une clarté d'eau de source, parce que justement, on se heurte à la difficulté, justement, de mettre à jour, par la langue, des choses qui sont en nous et auxquelles on se heurte. Par exemple, quand je pense à Guillevy qui dans Sauvage dit j'ai appris à me pardonner le mal qu'on m'a fait. C'est quelque chose qui soudain, et c'est très simple en plus, on peut pas dire qu'il y a une recherche métaphorique, c'est simplement le fait que soudain il va faire jaillir quelque chose qui va soudain aussi nous parler et qui a certainement été obscur aussi. Donc il y a ce jaillissement à la lumière et puis aussi cette obscurité qui chemine aussi dans nos poèmes, quoi, dans nos images.
C'est terrible, la phrase de Guillevy fait penser à une autre phrase qui dit en parlant de la Shoah, qui dit ils ne nous pardonneront jamais ce qu'ils nous ont fait. Ils ne nous pardonneront jamais ce qu'ils nous ont fait. Je ne sais plus qui c'est qui a... Enfin, j'ai lu ça il y a peu de temps, j'ai relu ça il y a peu de temps. Et c'est une phrase terrible, mais terriblement vraie. Mmh. Je crois que c'est Paul Celan qui l'a cité. Mmh. Oui. Ils ne nous pardonneront jamais ce qu'ils nous ont fait. C'est quand même extraordinaire. Et Guillevy part dans ce sens-là aussi.
Ah oui, parce que enfin lui c'était son aventure personnelle familiale. Je crois qu'il a beaucoup souffert de sa relation avec ses parents, quoi. Ils n'ont pas été très tendres avec lui, je pense. Donc voilà, c'est ça. Là aussi, cette circulation entre l'obscur et la lumière, quoi. C'est pour ça que, aussi, même l'image, c'est pour ça, aller chercher dans le paysage, là, il y a le trou de Bozoul. Je crois que tu connais, j'imagine. Dans l'Aveyron, tu connais.
Oui.
Hein?
Oui.
Voilà, ce calcaire effondré, mais en même temps, avec cette rivière, au fond, enfin, cette petite rivière qui coule, quoi. Enfin, c'est à la fois un effondrement et c'est à la fois un nouveau paysage. Donc, c'est pour ça. Quelque part, la désécriture, c'est d'être à l'écoute comme ça d'un... et puis peut-être le provoquer aussi, cette espèce d'effondrement, pour trouver d'autres circulations, quoi. Parce que des fois, bon, je sais pas si on veut être honnête avec soi, des fois on peut pas être tout le temps dans la même relation à l'écriture et puis être toujours dans une sorte de joie, de satisfaction, etc. Il y a des fois ça nous heurte, quoi, hein.
Si tu veux bien, Philippe, on va te demander de continuer. De poursuivre, mais je vais demander au moins de lire une dizaine de minutes, parce que je crois qu'il faut, si ça ne nous ennuie pas, il faut que les auditeurs puissent écouter cette parole, avoir le flux aussi de cette poésie.
9 juillet, La haine tenace, tombée comme une herse, cadenassant la sente qui mène de l'un à l'autre, d'avant l'ancienne forteresse d'amour. Le pont-levis s'est ajusté à la peine d'y vivre. La nidification dans la mémoire, vitrification de l'enfance en face. Première étape, les pluies longues sur les cheveux mûrs des ronciers. Une mèche allumée, illuminée dans le soleil. Élimination d'abord de tous les objectifs, les empêcher de nuire en cellules proliférant du rien. Elle vient à la porte de l'aube, la perte du chemin, et exige son dû pour tout le reste du jour, son geste. 10 juillet. Nous nous ressassons chaque jour la litanie d'enfance qui s'écaille toujours un peu plus, jusqu'à devenir un vin clos dans une bouteille fermée que plus personne ne boira. Tandis que dans l'intervalle s'accumulent les images anciennes, nous ressassons et nous jetons et nous tombons hagards dans le geste jeté. Comme ça que j'écris, comme ça que je désécris, elle va comme je te pousse, une toux fait son trou dans la rigole des pages, l'eau du poème s'échappe par les défaitières. Heureuse danse comblée, rigidité du temps quand il se met à nu, dans le prolongement du chemin, la soif est dans les flaques. Le prochain croit qu'il s'approche au bout du téléphone mobile, celui qui passe dans sa chair à côté n'existe plus. 11 juillet. Désécrire est la traduction d'une autre langue abandonnée, qui a laissé des mots éparpillés dans la langue de tous les jours. Du désécrire tombent en bruine des fruits noirs qui se métamorphosent en lettres, quand il écrit, quand ça s'écrit. Village provençal ou languedocien dans l'été embleui, désenventé, brûlant. Des linges d'ombre sèchent au sol, attendant de s'allonger en nuit, glissant lentement dans le ciel. Plus loin, un vieil homme porte dans son sac à dos une bouteille d'oxygène qui le fait respirer par saccade. Ensuite, l'orage se tend comme un autre linge sur tout l'horizon. Beaucoup de bruit pour rien ce soir, il est parti ailleurs. 12 juillet. L'événement. L'épiphanie. L'infini gratuité d'écrire qui en gêne tant, qui voudrait du sang à la place de l'encre. Qui croire. Le décèlement. Comme une fenêtre dans le ciel ouverte, attendant la fusée à une certaine heure, s'ouvre dans le corps une fenêtre pour le poème. À chacun d'en chercher l'emplacement précis. Sinon, englacement, figement de la langue, ou bien alors le poème en éjection n'arrive plus à détacher ses étages pour toucher le cosmos. 13 juillet. Silence. Six lances enfoncées dans le cœur du cri, vieille image, bulle archaïque remontant soudain, puis balle s'affranchissant des pesanteurs, ou funambule au-dessus du canyon, dans la traverse d'y vivre, dans ce Y. Un glissement dans les failles, un feu de failles, une oppression à la place d'eux, le chant en confetti, des échantillons de chant qui se tiennent au bord des lèvres. À quoi sert de désinstaller ce qui n'a, n'a pas, nappé de phrases, l'avancée du vide, puis s'évacuer de l'ouragan, poliment.
Merci. Donc on a vu là le ton de général quand même de du livre. Alors désécrire, on va revenir sur désécrire. Quel est le comment on peut se représenter cet acte qui semble être un acte de comme il y a le dé, c'est de destruction.
Oui, mais tu sais, je plaisanterai du jamais un coup de dé, tu sais, oui, pas oui, l'armée. Oui. Et ça m'avait fait un peu amusé aussi. C'est de destruction, mais en même temps, tu sais, par exemple, il y a un poème de Reverdy que j'aime beaucoup qui s'appelle « L'eau d'or ». L'or ou le ruisseau, le soleil à l'eau, des ronds de chaleur filent et le cœur s'arrête en sursaut. Enfin, au niveau de la musicalité, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Et je me suis amusé. J'ai un processus de désécriture, si tu veux, en atelier, qui consiste à enlever un mot par vers, on dit par ligne, si tu veux. Et pour arriver, pour le défaire, tu vois, donc petit à petit se défait. Mais, en fait, on ne fait jamais qu'écrire encore un autre poème qui a moins, avec des images soudain qui se mettent à travailler ensemble, parce que les images avec lesquelles elles étaient construites n'y sont plus. Donc, et ça, c'est de l'ordre de des écritures, mais pas dans un sens, si tu veux, de destruction. C'est toujours dans cette idée d'aller rechercher du sens, tu vois, là où, voilà, rechercher du sens de cette manière-là. Il y a plusieurs manières de le faire, hein. Je dirais, à la limite, on pourrait même faire de manière violente, tu vois, on peut le couper avec des ciseaux, tu vois, recoller, reconstruire. C'est le fait de... Puisque pour moi aussi, l'atelier d'écriture, c'est le lieu où l'on fait constamment bouger le sens. On n'apprend pas, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses comme ça, c'est pas un enseignement littéraire, c'est une manipulation... au bon sens du terme, hein, j'espère, des mots, du langage, de telle sorte qu'on gagne en agilité, en habileté, en regard sur ce qui se passe, et de justement de pouvoir sortir de ce figement que d'une certaine manière, le signe dont parle aussi Mallarmé, qui est pris dans les glaces de la page, du blanc. C'est ça, hein, je veux dire, ça vient de là aussi quand même, cette idée que ce que l'on a écrit, quelle que soit la force et la qualité de ce que l'on a écrit, ça fige, et que ce qui est là posé, bah, c'est fini, il faut aller ailleurs, quoi.
Et en même temps, il y a une certaine solennalité dans la mesure où c'est figé aussi.
Oui, hein? Oui. Oui. Mais là, justement, il n'y a jamais de jugement de valeur qui se pose. Ce sont des états, si tu veux, des états successifs, comme, je veux dire, l'effritement d'une brique. Est-ce que ça, il y a un jugement de valeur? La brique, elle s'effrite. Hein, voilà. Donc, c'est pas justement. Il faut quitter ce côté jugement de valeur et de voir comment ça œuvre. Et puis cette idée d'érosion aussi est importante, quoi. Il y a à la fois cette circulation des lettres, mais il y a aussi cette érosion. Et puis cette érosion, faut pas penser, parce que la langue, elle est aussi elle est comme ça, elle est pétrie de toute notre chair, de tous nos sentiments, de tout cela. Donc en fait, quand on touche à un mot, on touche à plus qu'à un mot. C'est ce qui fait le poème et ce qui protège du jeu. Jeu, J-E-U, hein, qui protège un peu du jeu, peut-être. C'est justement le fait que, bon, on écrit avec tout son corps, quoi.
Philippe, dans ce que tu disais à propos de la souffrance de Guillevic,
oui,
la phrase que tu as citée, j'ai trouvé chez Pessoa, par exemple, qui dit, au fond, ce que nous sommes de plus douloureux, c'est ce que nous sommes réellement, et nos plus grandes tragédies se déroulent dans l'idée même que nous nous faisons de nous-mêmes. Ouais. Je trouve que ça illustre totalement.
Mais ils sont merveilleux,
de dire de Guillevic, et de ce que de la phrase terrible, qui est une phrase terrible de Guillevic.
Mais ils sont merveilleux, tous ces poètes qui arrivent à mettre à jour comme ça des.
Ouais, en une phrase, de dire autant de vérité.
Hein. Oui.
Alors, si tu le veux bien, dans les quelques minutes qui nous restent. Je te propose la chose suivante. Je vais faire juste deux annonces sur des livres dont je parlerai les semaines suivantes. Et ensuite, nous allons nous quitter sur la prolongation de lecture de ton texte.
Hein? D'accord.
Voilà. Alors, très vite, je voulais dire, je ne sais pas si tu connais ces éditions Poepsie.
Oui.
Donc un beau travail, c'est un éditeur toulousain, IRES, attention.
C'est oui, oui. C'est là où c'est mon éditeur pour le livre La chaufferie de langue sur les ateliers d'écriture.
Oui, c'est vrai. Voilà. Donc il publie un très beau livre, J'ai deux poèmes dans le vif de Fukushima, du japonais Ruachi Vago.
Est-ce que je peux te couper parce bien que. Sûr. Je pense qu'on va à la CAF Poésie faire une lecture, comme celle à laquelle tu as assisté, du cahier de des écritures, avec ce recueil.
Ah, oh, très bien.
On le fera fin mai. Fin mai.
Mais voilà.
Tu ne pouvais pas le savoir. Hein.
Oui. D'accord. Bon, alors, donc, je parlerai de ce recueil, qui est publié chez RS, hein, de la collection Pau et Psy, dirigée par Daniel Faujoras. Et puis, quelqu'un que tu connais certainement, Michel Monnereau, qui avait publié dans les années 80, même 70, Encre vive, déjà, hein, qui vient de faire paraître à la table ronde « Je suis passé parmi vous », recueil de poésie, très beau livre, très très beau livre aussi de poésie, où on retrouve bon, tout le ton de Michel Monnereau. Et puis, Jean-Michel Mollepoix, qui fait paraître les éditeurs Le Passeur, qui est dirigé par Dominique Sampiero, cette collection, Le Voyageur à son retour. Voilà, je fais juste l'annonce de manière à pouvoir l'annoncer dans le compte-rendu de cette émission et le mettre dans le compte-rendu, de manière à ce que à la fois les auditeurs, mais les internautes, puissent se procurer ces ouvrages. Et nous allons donc nous quitter sur la lecture de Le cahier de des écritures de Philippe Berthaud, que vous pouvez vous procurer en allant sur Internet à publi.net.
Voilà.
Publi.net, Philippe Berthaud.
Et puis, il y a de voir aussi tous les autres livres merveilleux aussi, qui sont publiés chez publi.net.
Voilà. Ouais. Et puis, nous n'avons pas parlé de tes livres antérieurs.
Oui.
Mais bon, je le mettrai dans le compte rendu, les internautes le trouveront sur notre site les-poètes.fr. Voilà, Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous nous quittons, si vous voulez bien, sur la lecture de ce cahier de des écritures de Philippe Berthaud.
15 juillet. Chaque mot paraît-il à deux visages, celui de son sens et celui de la matérialité de ses lettres. J'écris à la nuque des mots, là où s'offre le cou du lapin. Puis j'énucle la lettre, il n'y a pas de sang, seule une traînée de limaces, au beau milieu du front. La lettre en peine, à peine à se stabiliser, elle n'attend que le prochain mot pour s'en aller, quitter son attelage, en combiner un autre. C'est au cœur même de cet attelage qu'écrire se donne à voir comme une errance. Toute gratification en l'espèce est une imposture, toute gratification de l'aboutissement trahit son intention. De l'ordre du tissu et de ses métaphores à n'en plus finir qui ne rendent compte de rien, font seulement croire dans la suspension du sens manquant qu'il y a une fin. 16 juillet. Ravin engravé de pierre. Gravins d'où giclent les ronces et leurs cadavres de murs, s'isoler pour dire, s'immoler pour mire, pour destination. Pivotement des lettres sur elles-mêmes, avez-vous songé à vous? Pas un jeu, mais de la détresse comme une crue d'encre, les nœuds des cheveux du jour. Éventration de la lumière, toutes ces entrailles dans le grenier du ciel, des îles mouvantes chez les vivants, des pâles, un rotor, le soleil déclinant, molleille et mune montante, mune noire, nouvelle, au cœur de l'an, rien n'y fait, tout sans sable. Un brouillon d'eau, une piscette pour seulement signifier qu'il y a écoulement, accoulement, plus loin, l'éboulement des lierres, le végétal, le minéral, les yeux de la terre d'où pleure le brouillon des sources. L'épuisement, les ruines, l'éruinement des élans, la cavalcade des jours en dehors des chevaux, en dehors des selles des jours, le tout précipité, dans des ligatures de toutes sortes, afin de faire du pas l'entrave même. Plonger dans les profondeurs de ton nom, jusqu'aux crêtes inconnues, des deux côtés de la lignée, plongée dans la lignée et noyade. Le mal qui y fut fait continue son travail de râpe et de sape juste avant l'effondrement. De loin en loin, selon la forme donnée, à ce qui conduit l'écriture résonne tout ce qui avait été possible de laisser germer. Mais des tas d'inepties pour les initiés, les vagues de fond jamais ne remontent en bulles à la surface. Elles restent comme des semelles de plomb dans le bas du corps.